Voilà, non, ce matin, pas de PowerPoint. Quelques réflexions issues de ma méditation des textes qui étaient annoncés. Il y en a un troisième qui n'était pas là, mais les textes qui nous parlent de Gethsémané. Et je vais en lire en tout cas un. Matthieu 26, 36. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémané. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. » Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder leurs yeux ouverts. Il le laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit est là. » C'est un texte qui est difficile, je trouve. Et c'est un texte qui est magnifique aussi. Je ne crois pas qu'il y ait un texte dans le Nouveau Testament qui nous révèle plus l'humanité de Jésus-Christ. On n'aime pas ce texte en général, enfin, ce n'est pas qu'on ne l'aime pas, mais on aime bien l'évacuer. Parce que, ben, voilà, on aime Jésus qui marche sur l'eau, qui multiplie le pain, qui guérit les lépreux. Qui dit « Soyez en paix, aimez-vous les uns les autres, amenez-moi les petits-enfants, etc., etc., je veux les bénir. » Et bien sûr, ben, voilà, il y a ça parce qu'il doit y avoir la croix, parce qu'il doit y avoir la résurrection, toute l'histoire derrière. Hein. Mais là, Jésus en est à cet endroit-là. Et il est, malgré le fait qu'il soit sans péché, et qu'il est aussi en lui, cette divinité, là il est pleinement homme et puis il est juste un homme. Et c'est assez terrible. Le mot Gethsémané, je ne sais pas si vous le savez probablement, je ne sais pas pourquoi, là, il y a des mots qu'on ne traduit pas dans la Bible comme ça, je n'ai jamais compris pourquoi. C'était un lieu dit, mais ça veut dire le moulin à huile. C'est pour ça que comme titre j'ai choisi ici « Lorsque les pierres broient ». L'endroit où Jésus aimait se retirer à côté de Jérusalem, c'était une oliveraie sur une colline, donc il y avait des olives. Et puis à proximité des oliviers, ben, il y avait un moulin pour faire de l'huile. Hein. C'est des moulins qui ressemblent un peu aux moulins qu'on avait même ici pour d'autres choses que pour les olives. Hein. Deux pierres qui tournent, et puis ben, il y a un endroit où les pierres se rejoignent, et puis on met les olives et elles sont broyées, y compris les noyaux, et ça fait de l'huile. C'est intéressant de savoir dans cette image que l'olive, qui est un fruit extraordinaire, est immangeable telle qu'elle. Si vous cueillez des olives sur un olivier, qu'elles soient vertes, noires ou entre les deux, c'est d'une amertume insupportable. Ce n'est pas un peu amer comme des cramiers, on dit « oh, c'est un peu amer » ou des artichauts. Non, non, c'est une amertume, c'est astringent, ça, on a l'impression que ça vous avale la langue, hein. Quand j'étais enfant et que j'avais des cousins qui venaient de Suisse, on les amenait toujours dans les oliviers. Et ils se faisaient toujours avoir parce qu'on leur proposait les olives vertes. Puis ils disaient, non, non, on n'est pas bête, on sait qu'il faut manger les fruits mûrs, puis prenez les noires. C'est à peu près aussi acide que les vertes. Hein. Un petit peu moins. Voilà, donc c'est un fruit qui et ce qui est incroyable, c'est que ce même fruit sans transformation, parce que pour les manger, on en mange, hein, on les met dans du sel ou du potassium, on les fait tremper pour enlever l'amertume. Mais ce même fruit qui est amer, une fois qu'il est broyé, il fait une huile qui n'est pas amère. C'est assez... Alors, probablement quelqu'un pourrait nous expliquer pourquoi au niveau de la chimie, j'en sais rien, qu'est-ce que ça fait comme transformation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui disparaît, qu'est-ce qui apparaît. Mais en tout cas, la réalité, elle est là. Vous prenez des olives amères, elles sont broyées, et ça fait une huile qui est douce. Et l'huile d'olive, dans l'économie, dans la vie, à l'époque d'Israël, bah, c'était une bonne partie de la nourriture. C'était pour les soins, parce qu'on mettait de l'huile. Hein. C'était pour le bien-être aussi, massage, ces choses-là, l'huile d'olive. Et puis c'était pour éclairer. Les lampes à huile fonctionnaient avec de l'huile d'olive, puisque c'était la, dans cette région-là la première source d'huile, quoi, presque la seule, je crois. Peut-être d'autres, mais... Voilà. Et donc, c'est pas par hasard que Jésus, à ce moment-là, va dans cet endroit-là. Il y a un côté symbolique, hein. Cette montagne des Oliviers où il aimait se retirer, qui était juste à côté de Jérusalem. Moi, j'ai jamais été. Eric nous en parlerait. Une autre fois, pas aujourd'hui. Et là, il va dans cet endroit-là, Gethsémané. L'endroit où les pierres se touchent. Hein. Et c'est l'endroit où bah, les deux pierres se rapprochent et il n'y a pas assez de place pour qu'on en sorte entier. Et je crois, plus ou moins, bien sûr, mais on connaît tous ces moments-là. Et Gethsémané, ce n'est pas encore l'écrasement, c'est le moment où on réalise qu'on va se faire écraser. C'est peut-être le plus difficile. Je ne dis pas qu'après c'est facile, hein, mais c'est pas encore le choc de la bombe, c'est le souffle de la bombe, quoi, hein. La mauvaise nouvelle qui arrive, le téléphone qui sonne, le papier du docteur qui est là, la personne qui est partie, peu importe, il y a des milliers de façons que la souffrance nous touche. Mais c'est ce moment où on réalise qu'on ne va pas y échapper. Sauf que pour Jésus, ce qui est différent, c'est qu'il aurait pu y échapper. Parce que pour nous, la souffrance, il y a des souffrances qu'on peut éviter, mais voilà, on est sur terre et de toute façon... Quand on est né, hein, si on garde l'exemple des oliviers, lorsque les fleurs commencent d'arriver sur la branche, leur destination, c'est le moulin à huile. Hein. Lorsque nous naissons, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, on va y arriver, hein, à ce moment-là. Mais Jésus, cet instant-là, en tout cas, il restait à sa disposition. Et c'est ce qui est assez incroyable, et c'est ce que... Peut-être, heureusement pour nous, nous n'avons pas à vivre. Nous, tout ce qu'on peut éviter, on l'évite, heureusement. Hein. Et puis, il y a les choses qu'on ne peut pas éviter, quelle qu'en soit la raison. Et c'est vrai qu'on vit à une époque et dans des pays où on a cette idée que ce que Dieu veut, c'est que tout aille bien pour nous, tout le temps, le plus souvent possible. Hein, et puis, voilà, que Dieu, il sert à ça, à ce que nos vies soient agréables. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, mais c'est pas la vérité. Alors Dieu veut pas qu'on souffre pour souffrir du tout, ça c'est pas son but. La souffrance en elle-même n'apporte aucun mérite. Mais parce que nous sommes dans un monde qui a été touché par le mal, par le malheur, par le péché, par tout ce qui en est sorti, le chemin qui va dans la bonne direction est toujours accompagné de ces moments-là. Ça nous aurait été évité si on avait nos ancêtres et puis nous aussi, parce qu'on aurait fait pareil, fait un autre choix. Mais dans ce monde-là, il n'y a pas le choix. Et c'est fort de se dire que même pour Dieu incarné, donc lui-même n'était pas pécheur, il n'y avait pas d'autre solution. Si Dieu avait pu nous accorder son pardon, nous déclarer juste sans être lui-même injuste, s'il avait pu nous pardonner, sans qu'il y ait ça, il ne l'aurait pas fait. Hein. Alors, il pouvait nous laisser à notre sort sur terre et puis nous débrouiller. Mais s'il voulait intervenir dans notre histoire, alors il fallait qu'il vienne sur terre. Et quand on vient sur cette terre parce qu'elle est touchée par le mal, on va être touché par la souffrance et par le mal. C'est pas quelque chose que j'aime, c'est pas quelque chose qui me réjouit, c'est pas une idée qui me plaît, mais je pense plutôt... On accepte cette idée, mieux c'est, parce que c'est la réalité. Et y a une chose qui est importante, c'est que quand même, j'ai dit tout à l'heure que l'huile était douce, hein, alors que l'olive est amère, c'est vrai. Mais il y a une différence entre une huile d'olive faite à partir d'olive noire et à partir d'olive verte. La verte, l'huile faite à partir d'olive verte est un peu plus acide. Elle est bonne, hein. Alors, pour ceux qui aiment, même, elle a peut-être plus de caractère, mais elle a de l'acidité. Alors que l'huile qui est faite à partir d'olive bien noire, bien mûre, elle est très douce. C'est pour ça que moi, je ramasse toujours les olives quand je vais à Noël chez mon père. C'est les dernières, les toutes noires, toutes flétries, là, vous savez. Et ça, ça fait une huile d'une douceur incroyable. Et ça, je crois que c'est aussi une image de ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies, et on a toutes nos vies pour ça, hein. C'est que plus nous allons avancer en maturité, plus l'huile sera douce. De toute façon, l'olive va être écrasée, hein. Mais plus elle est mûre, plus l'huile est douce. Et donc, l'idée, c'est pas de se réjouir, de souffrir, surtout pas, c'est pas une pensée qui vient de Dieu, puis c'est pas sain, hein. Mais c'est juste d'accepter que le chemin que Dieu nous trace, c'est le bon. Et puis, c'est pas toujours celui qu'on aurait voulu, hein. Et dans ce sens-là, notre vie avec Dieu peut rejoindre ce que Jésus a vécu, parce qu'il y a des souffrances qu'on ne peut pas éviter, hein. Vous attrapez une maladie, vos enfants ont des problèmes, vous perdez votre boulot, etc. Vous vieillissez, on n'y peut rien. Mais il y a des souffrances qui sont la conséquence de notre vie avec Christ, qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas fait ce choix-là, hein. Choisir d'être honnête, choisir d'avoir les bonnes valeurs, choisir de rester fidèle, choisir de, etc., etc. Et là, ben, on se retrouve devant des situations où on voit qu'on va être écrasé, et on a le choix, comme Jésus l'a eu, hein, d'accepter ou pas. Mais ce qui est extrêmement unique, c'est que Jésus, lui, a affronté ce moment seul. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible, quoi. Et puis, ben, ses disciples, ils étaient gentils, hein, ils étaient comme nous, mais ils étaient fatigués. Et puis, on a trois textes dans les évangiles, je n'ai pas lu les trois. Hein. Là, j'ai lu Matthieu, mais vous avez aussi Luc 22 et Marc 14. Et dans Marc, il est dit qu'il les trouva endormis de tristesse. Hein. Et puis Luc, il reprend la fatigue. Juste. Et c'était un mélange des deux, bien sûr. Hein. Ils étaient épuisés et par la fatigue, parce qu'ils n'avaient pas dormi, parce qu'ils avaient, voilà, les derniers jours avaient été agités, mais aussi par, ils ne comprenaient pas ce qui allait se passer, hein, mais ils sentaient, hein, cette tristesse qui arrivait. Jésus aurait aimé que Pierre, Jacques, Jean soient avec lui. Dans ce moment-là, ça ne changeait rien, mais on sait tous ce que c'est, hein, quand c'est difficile et qu'on a des vrais amis qui sont là, qui ne disent rien, c'est bien de rien dire, mais qui sont là et qui sont éveillés. C'est-à-dire qu'ils sont conscients de ce qu'on vit et ils sont à côté. Et Jésus, lui, a dû le traverser seul. Et ce qui est magnifique là-dedans, moi, je trouve, c'est l'encouragement, paradoxalement, que ça apporte. Quand nous, on doit passer, alors on est loin de ces situations, cette situation-là, hein, mais dans nos Gethsémanes à nous, qui sont terribles parce que c'est les nôtres, et de se dire à quel point Jésus nous comprend. C'est pas de la théorie, c'est pas quelque chose. Il est Dieu, il sait tout. Alors Dieu est omniscient, il sait tout, c'est super, hein. Comme un dictionnaire, sait tout, surtout. Mais là, Jésus, c'est pas qu'il sait, c'est qu'il l'a vécu. Il a été seul en ce moment-là. Il a eu cette lutte. Et le texte de Luc nous rajoute un détail que Matthieu et Marc ne nous donnent pas. C'est que c'était tellement intense que sa transpiration, c'était des gouttes de sang. Alors, on sait l'expliquer aujourd'hui, même médicalement, je veux dire, c'est pas un truc bizarre, quoi. C'est une pression tellement forte, ça peut se produire. Donc, ça montre l'intensité du combat qu'il y avait. Et je sais pas pour vous, mais c'est pas les textes les plus joyeux, mais en les méditant, je me disais, je me suis rarement senti, pas moi plus proche, mais je réalisais que Jésus était proche de moi. Parce que on sait de quoi on parle. Il sait de quoi on parle. Voilà, il y a toute proportion gardée. Et ça, c'est quelque chose qui est magnifique parce qu'en fait, l'attachement à Christ ne doit pas venir de « ouais, je vais souffrir pour lui » ou d'une envie de faire des exploits. Ou, hein. L'attachement à Christ, il vient de quoi ? Il vient de l'amour qu'on a pour lui. Hein. Et cet amour qu'on va avoir pour lui, il est la conséquence de notre compréhension de sa proximité, de ce qu'il a fait. Parce que la mauvaise lecture de ces textes, c'est de se dire « ces textes sont là pour que je me sente tellement coupable avec ce qu'il a fait pour moi » que je sois obligé de faire quelque chose pour lui. Ça, c'est la fausse lecture. Elle est mauvaise, elle est dangereuse. Elle produit rien de bien. Hein. Elle met de la pression sur les vies, et puis à la fin, ça fait des gens qui craquent, et puis qui en veulent à Dieu parce qu'ils ont dû souffrir. Donc, ce n'est pas du tout ça. Ces textes ne nous sont pas rapportés. Moi, je peux imaginer le Saint-Esprit qui se dit... Parce qu'en fait, ils n'y étaient pas, les disciples dormaient, hein, donc je ne sais pas comment ça se fait qu'on a ce rapport-là. Hein. Mais le Saint-Esprit qui se dit, est-ce que je leur donne ces textes-là ou est-ce que je ne leur donne pas ? Parce qu'ils peuvent tellement se faire du mal avec, si ces textes sont pris, et comme souvent en plus les prédicateurs l'utilisent, hein, vous vous rendez compte de ce qu'il a souffert pour vous et vous, vous n'êtes pas capable de lui donner. Ah, ça c'est... Ih, c'est méchant, c'est triste, parce que ce n'est pas ça. Ce que le Saint-Esprit a voulu nous donner par ces textes, c'est... Voyez combien il vous aime et combien il peut vous comprendre. Parce que lui aussi, il a lutté. Puis quand il dit ceci dans Marc 14, 36. Père, et puis même il dit Abba, hein, papa, hein, c'est le petit mot. Pour toi, tout est possible. Il sait que tout est possible pour Dieu. Quoi, et il est en train de lutter avec ça. Éloigne de moi cette coupe. Et cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Le texte est comme ça, mais moi je ne pense pas que ça s'est passé comme ça dans quelques secondes. Entre Père éloigne cette coupe, et puis pas ce que je veux, mais ce que tu veux, hein, parce que Jésus a prié quelques heures là, dans la nuit. Ce n'était pas Oh Père, je sais que tu peux tout ce que tu veux, éloigne de moi cette coupe. Ah, tu ne veux pas. Bon, tant pis, que ta volonté soit faite. Non. Hein, c'est, voilà. C'est pas ça. Il y a une lutte terrible parce que. Et j'avais jamais réalisé autant à ce point-là comme c'est une question qui est forte pour nous parce que chaque fois que le malheur ou le mal nous frappe, on se dit mais Dieu aurait pu l'empêcher. Je sais que tu es tout puissant. Donc tu pouvais le garder en vie, tu pouvais faire kina, tu pouvais faire que, tu pouvais. Oui, je sais que tu es tout puissant et tu l'as pas fait. Pourquoi tu ne le fais pas ? Et là, il y a cette lutte. On doit tous passer entre les deux pierres. Hein. Mais on peut embrasser la volonté de Dieu, on peut la subir ou on peut la combattre. Et en fait, le curseur peut être n'importe où entre ces extrêmes-là. Et je ne crois pas que quelqu'un puisse dire sur Terre, moi, ça y est, j'embrasse la volonté de Dieu. Non. C'est toujours un combat, c'est toujours une lutte. Des fois, ça se passe pas trop mal. Des fois, on échoue lamentablement et on lutte contre. Hein. Mais le combat se situe là, en fait. Et ce combat ne sera pas gagné par se sentir coupable parce qu'avec tout ce qu'il a souffert, je devrais être content de souffrir moi un peu. Ça, c'est idiot comme raisonnement. Ça marche pas. C'est pas vrai. Ça marche qu'en théorie. Hein. Mais par contre, de me dire, il y est passé et il sera avec moi. Ça, j'en suis sûr. Il y est passé et il sera avec moi. Parce que si on pense à la perspective, on en parlera dans un des prochains dimanches, hein, Jésus savait ce qu'il avait devant lui. Et ce qu'il a subi, c'est assez incroyable parce que c'est trouver rassemblé là la somme des souffrances qui peuvent exister. Souffrance physique, il n'y a pas plus horrible que de mourir crucifié. Je ne vais pas détailler ce matin le supplice de la crucifixion, mais l'homme qui peut inventer des choses extraordinaires dans le bien est capable d'une inventivité dans le mal qui est incroyable. Donc la crucifixion, c'est une mort horrible. Ce n'est pas juste mourir, c'est une torture qui dure des heures et des heures. C'est abominable. Donc au niveau physique, ben, il n'y a pas pire. Hein. Il y a autant. Mais... Après, il y a tout ce qui est la trahison. Hein. Ça se passe parce que celui avec qui vous avez partagé tout pendant 3 ans, à qui vous avez confié les finances de votre organisation, va vous vendre pour 30 pièces d'argent, ce qui n'est pas grand-chose, hein, en plus. Les gens qui étaient avec vous, là, vos plus proches amis, eux, ils dorment pendant ce temps-là. Hein. Après, ben, il va laisser sa mère qui va souffrir. Et je pense que pour ceux qui sont un peu plus âgés, on sait tous que quand des choses difficiles arrivent, de se penser aux conséquences pour ce qu'on aime, c'est presque pire que ce qu'on vit nous. Enfin, en tout cas, ça aussi, il a connu. Hein. Il va laisser ses disciples, il va laisser sa mère, il va laisser tout ça comme ça. Et puis, ce qu'on ne peut pas imaginer, par contre, parce que nous, on n'est pas saints dans le sens sans péché, hein. Lui qui n'a jamais connu le péché, il va être fait péché. Hein. Je pense quelqu'un qui serait à tort accusé de pédophilie, par exemple, ou pourrait un tout petit peu comprendre ce que c'est. Hein. J'ai rien fait, et puis on m'accuse, et tout le monde croit que je l'ai fait. Hein. On me le met sur le dos, et pour tout le monde, y compris mes proches, je l'ai fait. Hein. Ben ça, c'est mini, mais un tout petit peu ce qui s'est passé pour Christ au niveau spirituel et moral. Hein. Il a été fait péché. Parce que pour que ce soit efficace, pour que sa mort soit pas juste la mort de quelqu'un qui meurt pour une bonne cause, ce qui est déjà extraordinaire, il fallait qu'il soit fait péché à notre place. Ça veut dire que dans le regard de son Père, et ça on ne peut pas imaginer parce que la Trinité c'est déjà un mystère incompréhensible, les relations qu'il y a dans la Trinité c'est incompréhensible, mais on sait que c'est une unité qui est indivisible puisqu'il y a un seul Dieu, même s'ils sont trois, mais dans les yeux de son Père, il va se voir coupable, sale. Pour le Père, quand il va le regarder au moment où il sera sur la croix et qu'il accepte de boire cette coupe, il va être péché. Il va être le violeur, l'agresseur, le tortureur, le tout ce qu'on veut. Et le Père va lui tourner le dos. Et quand il va crier sur la croix, il n'y a personne pour répondre. Parce que dans ce moment-là, il est fait péché pour nous. Donc, il sait tout ça. Et là, c'est le moment où je dis oui ou je dis non. Et on comprend mieux à cette dimension-là l'intensité du combat qui se passe. Hein. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, de chaque fois que, enfin chaque fois, particulièrement cette année, en méditant ça, je trouve que ça fait grandir mon amour pour Christ. Pas en culpabilité, pas en « Ah ben il a fait ça, je vais en faire autant ». Non, je me sens encore plus incapable de faire quoi que ce soit. Mais de me dire « Ouais ». Compagnon de souffrance. On va après faire le survol de l'année 2017 là, pour le compte-rendu de l'AG. Et bon, pour écrire le petit compte-rendu du Conseil d'Anciens, j'ai pris mon agenda, j'ai survolé l'année 2017, ce qui n'était pas forcément agréable. Elle n'a pas été facile cette année-là. Hein. Il y avait des choses difficiles, il y avait des belles choses aussi. Mais une chose positive qui m'est revenue, c'est les moments de souffrance partagés avec plusieurs ici. Et je me rappelle, après la cérémonie qu'il y a eu pour Pascal, où on a partagé, conduire un peu cette cérémonie, entre autres, avec Ami. Et je me rappelle être allé le voir en lui disant, ouais, c'était déjà mon ami, c'est un jeu de mots, hein, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup et tout, mais quand on vit des moments comme ça ensemble, ça... Voilà, hein, je me rappelle être voilà, à l'aéroport, accueillir Marc qui revenait et puis le prendre, des choses comme ça. Et je repensais à cette phrase que j'ai retrouvée grâce à la magie d'Internet, un très beau texte que j'aimais d'un vieux chanteur que personne ne connaît, qui s'appelle Yves Simon, et qui disait ceci dans un de ses textes. « Il me faudrait surtout ne plus avoir peur d'aller dans des maisons inconnues et monter des centaines d'étages de misère ensemble. Ensemble. » Savez-vous ce que ça signifie? Nous avons miséré ensemble et je l'aime. C'est ce que disait un vieux type aux cheveux de la guerre d'avant. Il faut que nous misérions ensemble dans des ascenseurs quotidiens. Alors, c'est pas français, je sais, les profs de français font... On ne conjugue pas misérer, ce n'est pas un verbe. Et c'est tellement beau. Hein, nous avons miséré ensemble et je l'aime. Et c'est ce qui ressortait pour moi de cette méditation sur Gethsémané. Nous avons miséré ensemble, et il m'aime, et je l'aime. Parce qu'il n'est jamais autant proche que dans ces moments-là. Quand il marche sur l'eau, je l'admire, j'aimerais être comme lui. Hein. Quand il guérit les malades, waouh, c'est super. Mais là, là, c'est vraiment mon ami. Et on parle de l'intimité depuis, enfin, je parle de l'intimité depuis plusieurs mois. Et je trouve qu'on arrive dans l'endroit le plus intime des évangiles. Déjà, c'était fort, hein, cette dame qui brise le parfum sur les pieds de Jésus, et puis lui qui sait ce qui arrive et qui dit « Elle a fait ça pour ma sépulture à l'avance. » Donc, c'est comme si, vous vous rappelez, j'ai dit la semaine dernière, c'était une provision, un crédit d'amour en vue de ce moment-là. Il y en avait besoin. Il y en avait besoin. Mais là, dans ce moment-là, il est seul. Par contre, il nous est tellement proche, parce qu'il est sans force, il est faible. Et en plus, c'était évitable, mais il l'a choisi. Alors, voilà, c'était hein, juste cette citation encore d'Henri Nouwen qui dit « Le détachement n'est que la conséquence d'un plus grand attachement. » Le détachement n'est que la conséquence d'un plus grand attachement. Si on essaie dans nos vies de renoncer à des choses pour faire plaisir à Dieu ou par culpabilité ou parce que c'est pas bien, ça marche pas. Et même si on y arrive, c'est frustrant. Mais lorsque le détachement est la conséquence d'un plus grand attachement, alors là, ça fonctionne. Et ces moments-là où on voit Jésus dans cette situation-là, ils produisent en nous ce détachement parce qu'ils produisent en nous cet attachement avec cette intimité, cette proximité. Et quand ce même Jésus, après, va dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », on le cite souvent, ce verset, celui qui dit ça, c'est celui qui a vécu ça. Et ça, waouh, ouais. C'est pas juste il est avec nous parce qu'il est Dieu, puis il surveille tout. Il est passé par là. Et nous, on n'aura pas à le vivre seul. On n'a pas à le vivre seul chaque fois qu'on y passe. Et c'est magnifique parce que c'est la seule certitude qu'on a. Je suis toujours un peu gêné quand tout le temps on vient avec que des versets positifs. Ah, voilà les projets que j'ai pour toi, de bonheur, d'avenir. C'est vrai que c'est ce qu'on veut, hein, mais ce n'est pas sûr que ça se passe. Ce n'est pas sûr. Il y en aura, il y aura du bon, mais il n'y aura pas que du bon. Ce qu'on est sûr, c'est qu'il sera toujours avec nous, dans tout. Et celui qui sera avec nous, c'est celui qui a embrassé Gethsémané, qui a choisi pour que l'huile soit très douce, hein, et que cette huile soit celle qui nous guérit, qui nous apporte l'onction, qui nous garde et qui nous permet de traverser. Et puis, c'est vrai pour nous aussi. Hein. On a ça chacun en commun avec lui, et au fur et à mesure qu'on avance et qu'on vit dans l'authenticité, dans le partage, dans s'aimer les uns les autres, ce qui était la marque des disciples de Christ, hein, c'est la seule marque qu'il a laissée, aimez-vous les uns les autres. Alors, on se voit et puis on peut dire, nous avons miséré ensemble et je l'aime. Et c'est pas triste, c'est beau. Hein, parce qu'on est en chemin vers un après, un ailleurs, où là, effectivement, c'est le contraire. Il n'y a plus ces deux pierres qui se touchent. Hein, parce que voilà, l'environnement sera plus corrompu, nous non plus. Et puis on va aller voilà, on est à l'école dans la partie difficile. Mais c'est magnifique d'y penser. Et en tout cas, moi, ça m'encourage beaucoup. Et puis, je ne veux pas terminer sur une note négative, mais ça exclut définitivement cette espèce de faux christianisme là où on va toujours être béni, on va devenir riche, on va toujours être en bonne santé. Et puis, si on croit en Dieu, tout ira bien, quoi. C'est tellement à des années-lumière de l'Évangile, quoi. C'est de la folie, hein. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, juste, laissons celui qui est passé par là nous aimer. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que c'est un grand mystère pour nous. Comment tu as pu venir sur terre, comment tu as vécu ces moments-là, mais en même temps, tu t'es fait tellement proche avec nous. Et merci de ce que ça produit en nous. Merci pour cette intimité que ça rend possible. Merci d'avoir choisi, d'avoir accepté, même si c'était, on ne peut pas imaginer à quel point difficile, et que ça puisse bouleverser nos cœurs, et que cet amour puisse nous étreindre pour nous pousser vers toi, pour nous attirer à toi, pour nous attirer les uns vers les autres dans la communion qui vient de toi, Seigneur. Merci pour toutes ces belles choses qu'on peut vivre et qui donnent du sens à nos vies, qui nous remplissent. Aide-nous à embrasser ton plan, à l'accueillir, facile ou pas facile. Et donne-nous la force de traverser ces moments-là, mais aussi d'en récolter l'huile et d'être béni par ça. Merci pour cette matinée, merci pour ce moment et continue de nous conduire, Seigneur. Amen.